L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Deux invités aujourd'hui, Delphine Pelnard et Mélanie Collin, l'une chargée des relations presse et publiques du Mémorial Alsace-Lorraine. C'est situé à Schirmeck. Elle accueille en ce moment une exposition, c'est jusqu'au 5 janvier, une exposition photographique mise en place pour le 80e anniversaire de la libération de la vallée de la Bruche, baptisée Dans les yeux de la libération. Et nous accueillons également la responsable des expositions et donc de celle-ci, Dans les yeux de la libération, Mélanie Collin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va d'abord faire un petit point sur le mémorial Alsace-Moselle. Il est né sous l'impulsion de Philippe Richert. Il ouvrira ses portes en 2005. C'est un projet qu'il a porté tout au long de ses mandats. Alors, Schirmeck, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, je suppose.
Non, tout à fait. Schirmeck, en fait, un endroit très important au niveau de l'histoire de l'Alsace-Moselle, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Face au mémorial, à 10 km, on trouve la flamme mémorielle du Struthof, ce camp de concentration qui était sur le territoire. Et puis sur la commune de Schirmeck même se trouvait le camp de sûreté dans lequel sont passées à peu près 15 000 personnes durant la Seconde Guerre mondiale entre l'été 40 et sa libération en novembre 44. Donc oui, c'est un site qui est porteur et qui évoque ce qu'ont pu vivre les Alsaciens mosellans durant cette période de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, puisqu'on parle aussi des années 1870 à 1939.
Ça commence d'ailleurs en 1870, les différentes scénographies qui sont mises en place, on passe à travers des pans entiers de l'histoire dans ce bâtiment qui a été conçu pour une visite immersive. L'idée, c'est de ressentir, c'est de vivre. Alors, je veux dire, il n'y a pas les odeurs, mais les autres sens sont quasiment tous mis à contribution, que ce soit par le son des haut-parleurs qui évoquent les propagandes nazies et d'autres situations. Alors, c'était dans un premier temps, tout ce qui concerne 1870 et les grands conflits qui ont touché l'Alsace. Et dans un deuxième temps, la construction européenne, une deuxième phase de travaux.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, de 2005 jusqu'en 2017, le mémorial Alsace-Moselle s'arrêtait, on va dire, il y avait une ouverture sur l'Europe, mais on s'arrêtait plutôt à la libération. Et puis, en 2017, on a eu cette partie qui a été construite en partie finale sur la construction européenne pour montrer les lendemains de la guerre et la volonté d'instaurer la paix en Europe, la construction qui a pris, en fait, essence aussi en Alsace-Moselle, avec, bien sûr, les institutions européennes qui se trouvent à Strasbourg.
La construction européenne, gage de paix ici, en Europe. C'est sur ces bases-là que vous avez construit et que vous avez refait des travaux pour accueillir le public. C'est le message que vous délivrez ?
Oui, tout à fait. C'est un message qu'on délivre à travers donc, de ces visites de notre parcours permanent où on peut justement parler de cette histoire. Alors, on parle soit de guerre, mais pour évoquer la paix, comment on peut construire la paix, de quelle manière il faut la préserver. Et l'histoire de cette construction européenne est celle justement de la volonté d'instaurer la paix en Europe. Donc c'est vraiment les valeurs que porte le mémorial Alsace-Moselle tous les jours, à travers son parcours permanent, mais aussi à travers sa programmation culturelle, que ce soit des conférences, des concerts, des expositions, telles que celles que justement on a actuellement sur les 80 ans de la libération.
Oui, on va y venir, évidemment, ouais. des pièces de théâtre, des projections de films également.
Tout à fait.
Et des expositions temporaires. On va y venir tout de suite. On va juste terminer de parler du mémorial en général. Quel est votre public plutôt scolaire, familial et des passionnés d'histoire? Plutôt des Alsaciens, des Français,
alors,
plus largement des Européens.
Alors, on a un public très, très diversifié. Oui. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une augmentation de notre fréquentation très importante depuis 2 ans. Donc, l'an passé, on a battu notre record de fréquentation. Et là, nous allons battre notre record de fréquentation. Oui, alors, justement, il y a cette envie de connaître cette histoire du territoire, de se l'approprier. On est aussi autant des derniers témoins de cette Seconde Guerre mondiale, de ceux qui ont vécu notamment l'incorporation de force. Donc, il y a ce passage de relais, la mémoire en fait, qui est très important. Donc, on a une grosse fréquentation constituée de très nombreux scolaires, à peu près en gros la moitié. Mais après, pour tout ce qui relève du public individuel, ce sont des Alsaciens mosellans qui sont à même de vouloir connaître leur propre histoire. Et puis, d'autres personnes qui viennent découvrir la région, donc qui passent par le mémorial Alsace-Moselle, on va dire, en porte d'entrée de cette région pour après continuer leur séjour. Et d'autres qui viennent d'autres régions, même d'autres pays, pour pouvoir en fait comprendre ce qui s'est construit ici. Alors, quand je dis d'autres pays, c'est parfois très lointain. Ce week-end, on avait encore des Américains, on avait une Canadienne, on avait des Irlandais. On va recevoir très bientôt encore des Japonais. Donc, c'est vraiment...
C'est en lien avec l'histoire de leur propre famille ?
Oui. Alors, soit en lien avec l'histoire de leur propre famille, soit en lien avec l'histoire de leur propre pays. Les Américains, bon, forcément, ça fait écho notamment à la Libération. Les troupes qui sont passées en France et puis par l'Alsace et la Moselle, forcément, elles étaient constituées de ces Américains qui, aujourd'hui, ont des petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui ont besoin de connaître cette histoire. Et puis après, on a aussi, notamment, je pense aux Japonais, une volonté de comprendre, en fait, pourquoi, en Europe, on a réussi à se réconcilier aussi vite entre la France et l'Allemagne, alors que pour eux, c'est compliqué de leur côté d'être, on va dire, en paix avec certains de leurs voisins, très compliqué de mettre en place des relations internationales à ce niveau-là. Donc voilà, il y a une volonté, je pense, de comprendre notamment l'histoire d'une manière générale, mais ce qui peut se passer aussi au sein de leur territoire, que ce soit national ou régional même.
Concernant le mur des noms, la construction a commencé, la première pierre a été posée.
Oui.
L'idée, c'est que tous les noms des victimes alsaciennes mosellanes soient affichés, y compris les malgré nous.
Oui, tout à fait. Alors, cette construction a commencé le 2 octobre dernier. La pose de la première pierre s'est effectuée ce jour-là. Et donc, sur à peu près une année de travaux, on prévoit l'édification de ce mur des noms qui sera donc un monument en mémoire à ces victimes. Donc, en effet, il y aura les incorporés de force, mais pas que les incorporés de force. L'idée, c'est vraiment de rendre hommage à toutes les victimes alsaciennes et mosellanes de cette Seconde Guerre mondiale de façon, on va dire, globale. Et donc, on verra dans ce monument des noms s'afficher, avec la possibilité, si l'on souhaite, de rechercher un nom en particulier et de voir arriver plus qu'un nom, c'est-à-dire des dates de naissance, oui, de décès, les circonstances, peut-être même des photographies, une biographie. Voilà, ça va être vraiment de pouvoir connaître un peu plus ces personnes, plus que l'affichage d'un seul nom. Et puis aussi, ben voilà, de faire que cette base, elle s'alimente au fur et à mesure des mois, voire même des années, si on trouve des documents à droite ou à gauche, ou que les familles puissent apporter des éléments de compréhension qui pourront enrichir cette base.
Vous travaillez avec des archivistes des historiens?
Alors là, c'est donc le service de la région, service mémoire, qui s'occupe de ce travail-là. Il y a des historiens au sein de ce service qui justement sont en charge de l'édification des bases et du fait de pouvoir les faire grandir, ces bases. Donc voilà, c'est vraiment eux qui sont en charge et on aura vraiment, je pense, dès l'ouverture, beaucoup de personnes auront envie de connaître aussi cette histoire et de reconnaître des noms de leur famille sur ce mur des noms.
Mélanie Collin, responsable des expositions. Alors, je le disais régulièrement, des événements ponctuels, des expositions temporaires, que ce soit des pièces de théâtre, des projections de films de cinéma, des documentaires. Là, en l'occurrence, une exposition photo qui est liée évidemment au 80e anniversaire de la Libération, mais là, pas de Strasbourg, comme on a l'habitude de l'entendre plutôt sur ces ondes, mais de la vallée de la Bruche. Comment est-ce que vous avez monté cette exposition ?
Alors, l'idée, c'était de pouvoir ancrer le mémorial sur son territoire. Voilà, ça fait quelques temps qu'on essaye de ancrer le mémorial sur son territoire, montrer à la population, effectivement, qu'ils ont quand même un lien avec le mémorial. Donc là, pour les 80 ans, c'était tout trouvé. Il y a les grands événements un peu partout, à Strasbourg. Là, il était important pour nous de pouvoir faire une exposition sur la vallée de la Bruche. Donc le but, c'était de partir de ce qu'on avait. On avait, depuis l'ouverture du mémorial, déjà un petit fonds photo de particuliers qui avaient déjà donné des photographies de la Libération et de l'augmenter. Idéalement, on aurait aimé pouvoir avoir une photographie de chaque village de la vallée de la Bruche, mais bon, c'est pas comme aujourd'hui, on a tous un téléphone portable et donc un appareil photo dans la poche.
Oui, une époque où il y avait peu de photos.
Non, voilà. Donc, et puis au moment de la Libération, je pense pas que les réflexes étaient de sortir l'appareil photo aussi, donc ça a été plus compliqué. Donc, pour alimenter cette exposition, on a dû faire un appel à la population. On s'est quand même dit, au cas où, peut-être que des gens ont des trésors dans leur grenier. Il s'avère que ça a été un peu plus compliqué que ça. On a eu quand même des gens qui nous ont donné des choses, mais beaucoup moins qu'à ce qu'on s'attendait. En fait, les gens ont trouvé plus de documents que de photographies. Oui. Mais c'était quand même intéressant. Et puis, il a fallu aller chercher dans les archives américaines, puisque c'est les troupes américaines qui libèrent la vallée entre le 23 novembre 1944 et le 26 novembre. Et là, ça aussi était compliqué, puisque nous, on ne pouvait pas se déplacer à Washington. Donc, on a fait appel à l'Union internationale des Alsaciens pour savoir s'ils avaient des membres qui étaient sur place et qui acceptaient d'aller faire des recherches dans les archives américaines pour nous. Et il s'avère qu'une dame a répondu à l'appel, donc Madame Barbier, qui allait faire remuer les caisses des archives américaines et qui nous a trouvé une photo inédite qu'on ne connaissait pas de Schirmeck à l'époque.
Libéré par les Américains, donc il s'agit de voir des chars, ou vous êtes plutôt sur le côté humain des Américains qui viennent libérer la population?
Oui, alors l'exposition montre autant de visages, que ça soit des Américains, de la population, que aussi le côté plus matériel de la libération, avec quand même quelques matériels militaires, des infrastructures militaires qui étaient dans la vallée, mais majoritairement ça va être le côté humain. C'est les visages des libérateurs, les visages des villageois, et puis les deux visages sont en contradiction, parce que pour les habitants de la vallée, c'est le soulagement. On le voit, ils sont heureux et sourient. Pour les troupes américaines, pour eux, c'est le début, ou en tout cas que c'est pas fini. Et on voit la fatigue sur leur visage. Pour eux, c'est encore la guerre, c'est encore dans le dur du sujet et qu'ils vont continuer. Donc il y a ce contraste. Et puis à côté, on a aussi des visages des prisonniers allemands. Et eux aussi, on voit encore une autre facette mi-soulagés, mi-fatigués. Voilà, c'est fini pour eux, mais en même temps, ils ne savent pas ce qui les attend. Donc c'est tout ce que montrent ces photos.
Vous avez des archives, vous, la libération du camp du Struthof. Alors on sait qu'il était vide, hein, il n'y avait plus de prisonniers à ce moment-là, parce que les Allemands avaient libéré les lieux un petit peu avant, mais de la découverte de ce lieu par les Américains.
Alors, dans nos fonds documentaires, nous, on n'en a pas. Par contre, il en existe, que le CER des Struthof conserve aussi, oui. Notamment des archives américaines, effectivement. En fait, il existe une série de photos du 25 novembre, quand le camp a été découvert, d'Américains guidés par des forces françaises de l'intérieur pour découvrir le camp. Dans le même temps, le même jour, il y a le camp de Schirmeck qui est aussi découvert. Par contre, pour lui, il n'y a pas de photos. En tout cas, on n'a pas de photos connues pour la découverte du camp de Schirmeck.
Le camp d'internement de Schirmeck, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Ouais. Combien de photos pour cette exposition, alors?
Alors, il y a exactement 44 photos et également un film qui regroupe deux séquences de films d'archives, une séquence de films d'archives américaine et une séquence française sur les troupes en Alsace pour la séquence française. C'est De Gaulle à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, c'est loin de la vallée de la Bruche, mais en fait, il y a une explication, c'est que dans cette séquence, il est annoncé comme en voyage vers Urmat, qui est un des villages de la vallée. Alors, malheureusement, il sera retardé et il n'ira pas dans la vallée, mais ça montre quand même qu'il y avait une volonté de pouvoir venir dans la vallée. Puis les archives américaines, cette séquence de film, c'est ces troupes qui arrivent à Schirmeck et Lutzelouz, qu'on voit découvrir le village, les habitants, et puis aussi faire une pause bien méritée.
La vallée de Schirmeck, aujourd'hui synonyme de ce passé, de la dernière guerre particulièrement. Alors pour vous, évidemment, c'est une mine d'informations, parce que vous pouvez évidemment avoir peut-être encore quelques témoignages aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est de la matière vivante dont vous vous servez pour les expositions? La vie des gens, c'est ces fluides qui circulent, les histoires, les témoignages?
Bien sûr, dans nos expositions, en tout cas majoritairement temporaires, on va... Et dans le parcours, déjà, il y a des témoignages. C'est ce qui va rendre concret, en fait, pour les visiteurs, ce qui s'est passé. Il faut amener de l'humain, il faut amener des parcours pour leur montrer que ça a existé, que ces parcours ne sont pas juste des parcours généraux, qu'il y a eu des personnes derrière et que chaque cas peut être un peu différent, mais qu'ils ont une base commune et qu'il faut pouvoir continuer à en parler et puis surtout continuer à transmettre cette mémoire.
Les renseignements pratiques, on va y arriver également pour nos auditeurs qui aimeraient venir au mémorial. Elle est comprise, hein, ça, dans la visite du mémorial, cette exposition sur la libération.
Oui.
Mais autrement.
Oui. Alors, en fait, cette exposition, elle est présentée donc jusqu'au 5 janvier prochain inclus, donc à la fin des vacances scolaires de fin d'année. Elle est visible tous les jours, entre 9h30 et 18h. Donc, en effet, vous le disiez, vous pouvez faire la visite du mémorial, puis après passer par les l'exposition. Après, elle est en accès libre hein, pour ceux qui ne voudraient faire que l'exposition. Donc, il n'y a pas besoin de réserver avant. Après, si les personnes veulent se renseigner, elles peuvent aller sur notre site internet, donc www.memorial-alsace-moselle.com ou nous passer un petit coup de téléphone au 03 88 47 45 50.
On mettra votre numéro de téléphone et le lien sur nos réseaux pour nos auditeurs. Delphine Pelnard, donc je rappelle, vous êtes chargée des relations presse et public du Mémorial Alsace-Moselle, ainsi que Mélanie Collin, responsable des expositions. Donc c'est à Schirmeck et j'invite nos auditeurs à aller voir cette expo et à profiter. Alors là, les vacances scolaires sont terminées, mais souvent vous avez des animations en direction des enfants pour leur faire découvrir de façon ludique.
Oui, tout à fait.
L'histoire de notre région.
Oui, oui. Alors, on aura les visites qu'on appelle Jean ou Hans. Quelle histoire, justement, pour expliquer ces changements, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui auront lieu donc durant les vacances de fin d'année. Elles seront décalées cette fois-ci au vendredi, puisque les mercredis seront des jours fériés. Donc, vendredi 27 décembre et 3 janvier à 11h. Ce sont des visites qui plaisent énormément. Et puis après, on a prévu tout un tas de choses pour cette fin d'année, une pièce de théâtre le 22 novembre prochain. Nous avons donc la théorie des fragments, hein, donc placée sur réservation, et un concert de Noël donc le samedi 28 décembre.
Voilà. Programme.
Mais merci. Tout à fait, tout à fait.
Merci à toutes les deux, Delphine Pelnard et Mélanie Collin.
Merci. Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.